La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La quotidienne, la vie agricole sur partout, sur votre radio préférée, sur votre ordinateur, à la maison, au bureau, dans l'auto, à l'endroit où ça vous fait plaisir de nous écouter. Mon nom est Michel Cloutier, je suis en compagnie de Izzy Lévesque. Bonjour Izzy.
Bonjour Michel.
Ça va bien?
Ben oui, toujours un plaisir de t'accompagner.
On a l'éditeur de La vie agricole, Yannick Patelli, qui est avec nous, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Bonjour monsieur.
Et bonjour Izzy, bonjour Michel et Yannick.
Et là, aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui a eu lieu à la fin de l'été, qui réunissait entre autres des gens du monde de l'agriculture, des Américains qui étaient ici, qui étaient venus nous jaser un peu de leur façon de travailler.
Oui, en tout début de saison, vous rappelez qu'on vous a fait écouter une entrevue de Danny Messier, qui était le président des, qui est le président des céréales du Québec et qui était le porteur de cette activité sur sa ferme à Saint-Pie. Et en fait, il avait donc dans le cadre de cette grande conférence devant près de 300 producteurs, invité plusieurs producteurs. On écoutera d'ailleurs dans les prochaines quotidiennes Mathieu Bonnet, aussi le français qui est venu. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde sur les deux Américains qui sont venus, les deux fameuses deux vedettes américaines. Je sais que j'avais dit
les super vedettes.
Oui, ça fait quoi une super vedette américaine?
En agriculture,
en grande culture, ça fait 36 ou 37 ou 38 tonnes à l'hectare. Et quand Danny avait décidé de les inviter, au début, il voulait inviter évidemment David Oula, qu'on va entendre dans la deuxième portion, et il voulait inviter aussi Kelly Garrett.
Et Yannick, juste pour faire le lien, il fait 38 hectares et au Québec, c'est quoi?
On parle 7-8 hectares, 7-8-6.
Non, ben nos champions sont pas mal meilleurs que ça. Là. Ils sont plus à 13-14.
On a du 13-14
au Québec. Oui.
Mais ça serait nos champions à nous, nos super vedettes à nous.
OK.
Oui, bien c'est ça. Les conditions sont pas les mêmes. Là.
Il fait quand même le double aussi.
Et autre chose, c'est une culture irriguée. Là. Donc, ils sont dans une catégorie spéciale. Ça veut dire que c'est les gens qui arrosent. Ça n'existe pas ici, là. Ça existe dans l'Ouest canadien, mais des immenses systèmes d'arrosage, d'irrigation, là, qui font le tour. Ça, on n'a pas ça ici. On a généralement une pluviométrie qui est plus stable, mais en tout cas, là, je parle peut-être pour le passé, ça commence à être un petit peu plus instable que ça. Donc, ça n'a jamais été une préoccupation, sauf en production de légumières, le tabac également avait ça. Mais dans leur cas, eux, c'est une catégorie spéciale. Ouais, ce sont des gens qui sont...
Mais pour se baigner, justement, dans l'ambiance du 18 août, alors je disais tout à l'heure que Danny voulait inviter Kelly Garrett, qui était la grosse vedette qui venait avec David Oula, n'a pas pu venir parce que son fils est décédé quelques semaines avant l'événement. Et au dernier moment, il nous a dit, j'ai Chad Anderson. Et c'est ce que je vous propose d'écouter, Chad Anderson, qui était présent le 18 août. On l'a en entrevue, puis on va pouvoir commenter son entrevue par la suite.
Alors, on va écouter ça, on entend Yannick poser les questions. Chad répond en anglais, et tout de suite après, on a un traducteur qui nous dit finalement ce qui a été dit.
Thank you.
Alors voilà.
C'est voilà,
la passion du Sud.
La passion du Sud, mais moi, ce que je retiens, entre autres, de l'entrevue, puis je ne sais pas si Michel, tu me diras que si c'est les mêmes choses, mais entre autres, évidemment, il nous parle des concours qu'il a réalisés, et en fait, il nous dit que on comprend que c'est les quelques hectares sur lesquels il fait 35, 36, 67 hectares, ce sont quelques hectares, ce ne sont pas sur tous les hectares qu'il utilise, et en fait, il utilise même lui-même le terme, c'est un peu notre centre de recherche. Donc en fait, parce que souvent, même dans la promotion de l'événement, dans la présentation des vedettes américaines, comme je sais qu'ils aiment bien qu'on dise, les vedettes américaines de la grande culture, on les présente souvent sous le fait qu'ils font 35, 36, 36 hectares, 30 tonnes, pardon, à l'hectare. Et en fait, ce n'est pas que ça. C'est surtout dans le cadre de leur recherche, en fait.
Ben, c'est dans le cadre de leur recherche. C'est souvent aussi dans le cadre du concours annuel, de la performance. Donc on crée des situations qui sont optimales et même maximales dans ce cas-là pour produire le plus possible dans les meilleures conditions, sur les meilleures terres. Ce qu'il nous dit pas, c'est comment lui coûte produire ça sur cet espace-là. En termes de, par exemple, de fertilisation, c'est des terres qui sont drainées au maximum, mais sont aussi irriguées, ce qui, comme je mentionnais, c'est très rare ici. Ouais, hein.
Ouais. C'est un système d'irrigation. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est impliqué en agriculture très, très tôt, puisque quand, je pense, c'était dans l'entrevue ou présentement avant l'entrevue, quand on avait parlé avec lui, je pense qu'il est vraiment tombé dans le bain quand il était petit. Il a commencé, il avait 20 ans, en fait. Il s'est associé dans la ferme.
Mais il y avait 5 générations, 4 avant lui, dans ce cas-là. Il est de la 5e génération, donc on en a quelques-uns comme ça ici, là. Mais dans leur cas, dans des zones où, par exemple, les unités thermiques sont nettement plus élevées, nous, ça a pris un certain temps avant qu'on développe, en tout cas, ou qu'on trouve les meilleures façons de produire. Quand on a commencé à faire du maïs grain, là, on n'était pas où on est actuellement. Là. D'abord, les hybrides, on testait, on essayait, ça fonctionnait une année sur deux. Mais là, aujourd'hui, on maîtrise beaucoup plus la science de cette production-là.
Et est-ce que ça fait plusieurs années qu'on a commencé à faire ça?
Premier, je dirais dans les années 70, c'est là qu'il y a eu les premiers gens qui proposaient ou qui suggéraient que les terres, surtout de la vallée du Richelieu, soient très, très propices à faire ça. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à avoir du maïs grain en production, avec l'idée d'être autosuffisant pour nos productions animales. C'était ça, c'était le but. Bon, d'une part, les productions animales n'étaient pas au niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui, puis c'était pas nécessairement non plus les mêmes, mais c'était dans le but d'améliorer notre autosuffisance, d'être moins dépendant du marché des grains qui se transige à travers le monde. Donc, d'avoir cette autosuffisance-là, c'était le but. Et déjà, les agronomes de cette région-là, je pense à Gaétan Lussier, qui avait été le premier directeur régional de cette région-là, était un de ceux qui préconisait qu'on se lance dans cette aventure-là.
Mais dans l'admiration qu'on peut avoir envers des gars comme Charles Anderson ou David Hula ou Kelly Garrett, il reste que, au-delà de leur performance, parce qu'il y a quand même leurs performances qui sont présentées devant les 275 personnes producteurs qui étaient là, c'est aussi leur personnalité. Parce que ce sont des gens, et on le verra avec David Hula aussi tout à l'heure dans l'entrevue, ce sont des gens qui s'expriment bien, qui ont une bonne connaissance de leur métier, qui ont une facilité dans la communication, qui font certainement aux États-Unis des tournées avec des compagnies aussi, là, parce qu'en fait, on voit qu'ils ont l'habitude des estrades. ce sont des vedettes de certains points.
Oui, c'est ça.
Mais quand Chad Anderson, il le dit dans l'entrevue, puis il l'avait dit dans son discours, aussi dans sa conférence, quand il dit il ne faut pas penser en dehors de la boîte, il faut être en dehors de la boîte. Ils ont des termes. Terminologie, ensuite, qui t'amène à... En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est à toi de travailler, en fait, ton expérience, même en agriculture. Ouais, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est...
Exact, voir les choses différemment, puis oser faire des choses différentes, probablement. On fait une pause? Okay. On revient. Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Alors nous, voilà de retour à la quotidienne et justement... continuer avant d'aller te rejoindre, Yannick. Je veux revenir à Michel Saint-Pierre qui, avant la pause, nous parlait du grain au Québec, que ça avait commencé pour atteindre une certaine autosuffisance, de ne pas être dépendant des marchés extérieurs. Michel, est-ce qu'on l'a atteint, cette
oui,
autosuffisance?
On a atteint l'autosuffisance probablement fin des années 90. Là, il faudrait que je le cherche un peu dans mes notes, mais là, je vais de mémoire. Mais à ce moment-là, on a atteint l'autosuffisance de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'on restait dans un circuit fermé, on n'est pas en autarcie, là. Donc, on vend aussi sur des marchés, on importe aussi à d'autres moments. Alors, nos gens, ils font ce qu'on appelle du trading aussi, oui. Ils importent puis exportent. Mais j'allais dire qu'auparavant, avant qu'on introduise le maïs comme étant notre principale céréale mettant en production, on a longtemps été des producteurs d'orge, qui étaient d'avoine également. Et de blé fourrager. Alors, le blé fourrager, c'était le blé, mais destiné à l'alimentation animale. Alors, c'était ça. Alors, le maïs est venu, lui, tout d'un coup, bousculer tout ça. Et on continue quand même de produire de l'orge à plusieurs endroits. Mais c'était en termes de quantité, là, c'est plus la même chose. Là. On est tombé dans la marmite avec le maïs, oui.
Yannick, on va réentendre, on va entendre une autre entrevue d'un des, comme on disait tout à l'heure, d'une de ces vedettes américaines de l'agriculture qui était sur place. Est-ce qu'on peut présenter le deuxième extrait?
Oui, le deuxième extrait, ben, en fait, c'est l'autre invité de Danny Messier qui est David Oula. Je vous laisse l'entendre, on commente tout de suite après.
Excellent, on va entendre ça. Et voilà, ben on sent que ça va un peu dans le même sens que Chad Anderson, là, l'importance de voir les choses un peu différemment.
Oui, ce qui était impressionnant de David Doula, entre autres, dans cette journée-là, puis vous étiez là, Michel, oui, et Izzy, on l'a vu, bon, une fois qu'il avait fait il a fait l'entrevue avec nous, mais il avait fait aussi le matin, en fait, la grande conférence en trio, oui, avec Mathieu Baudet et Chad Anderson. Et après, il est allé sur le terrain, parce qu'il y avait des ateliers toute la journée, en tournante, comme ça, et lui, il s'occupait d'une grosse machine, en fait, le Soul Warrior ITS, là, en fait, et on l'a vu expliquer, en fait, sa machinerie, ça. Puis je trouvais ça intéressant parce que tout le long de l'après-midi, il racontait à tous les producteurs comme quoi la machinerie était super importante. Mais finalement, dans l'entrevue, toi, il le dit aussi, oui, il y a la machinerie, mais il y a au-delà de la machinerie, il y a ça a été traduit par le bon maïs, Michel le disait, les hybrides, il parlait, en fait, c'est des compagnies aussi, en fait, je pense que quand il dit ça, les bons hybrides, le bon maïs, je pense qu'il veut parler aussi justement des intrants. Il n'y a pas juste la machinerie, ouais, dans l'affaire.
Ben, souvent, ça commence d'abord parce que ces générations-là, comme celle de Chad, je ne sais pas, il n'a pas mentionné le nombre de générations qui étaient là, mais au fil des ans, ces gens-là ont été amenés à aller souvent dans les écoles les plus poussées de ce côté-là. Il y a des grands, des écoles extrêmement reconnues en matière d'agriculture, donc ils partent déjà avec une connaissance, une meilleure compréhension des choses. Après ça, il dit, bon, ben, mais le terrain, d'une part, meilleure connaissance du sol qu'il a, et quand on dit hybride, ben oui, généralement, c'est des hybrides, mais c'est aussi, il y en a jamais parlé, mais des hybrides OGM ou des variétés OGM, c'est venu aussi améliorer ce côté-là. Là. Bon, ça n'a pas toujours la bonne presse, l'OGM, mais il reste que ça l'a amélioré quand même pas sensiblement en allant chercher la génétique, en poussant la génétique à son maximum. C'est ça qui fait. Il faut aussi dire que, je pense qu'on l'a mentionné un peu plus tôt, mais que c'est des parcelles qui sont très spécifiques qu'ils utilisent pour conquérir, compétitionner dans cette chose-là. Je ne crois pas qu'on ait ça ici beaucoup, nous. C'est sûr que lorsqu'on regarde nos moyennes à nous, elles sont faibles. Mais il ne faut pas oublier que dans nos moyennes, on inclut beaucoup de producteurs qui sont souvent à la limite de la capacité de produire du maïs-grain, là. Chaque année, on tente de plus en plus d'élargir notre zone à maïs, là, pas toujours avec succès et pas toujours avec des grands rendements. Donc, quand on met ça dans une moyenne, ça donne l'impression que, bon, c'est pas très haut, mais on a nos champions, nous aussi, là. Et si on s'y mettait à produire sur une parcelle très particulière, là, en y mettant ce qu'il faut, on serait peut-être pas à ce niveau-là. C'est clair que les conditions sont différentes, mais on aurait des records assez spectaculaires également.
En tout cas, il y a au moins 275 producteurs du Québec qui ont écouté les recettes. Alors, il y aura peut-être des surprises l'année prochaine.
Qui étaient là et qui oui, justement, vont peut-être s'influencer de certaines pratiques qui leur ont été données pour s'adapter.
Je pourrais peut-être vous raconter une anecdote, si on a deux minutes. Je rencontre un jour une personne qui compétitionnait et vous avez peut-être entendu parler, dans une grosse compétition nationale au niveau des citrouilles.
OK.
Ça existe, ça. Et on pourrait peut-être me regarder même sur Internet, puis trouver des références. Cette personne-là, au Québec, détenait à ce moment-là le record de la plus grosse citrouille. Mais là, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec celle que vous mettez sur votre perron là, pour l'Halloween. Là. C'était des monstres de plusieurs centaines de livres qu'ils avaient entretenu dans un lot très particulier. Au niveau fertilisation, j'en parle pas, s'en prenait drôlement beaucoup. Mais on est dans une classe, à part quand tu regardes ça, tu te dis, cet homme-là produisait une citrouille qui devait, que tu ne pouvais pas lever autrement qu'avec un livre de tracteur.
Je regarde tout de suite, là, sur Internet, la citrouille la plus grosse au monde actuellement, l'État de Washington. Alors, on va dire le concours de la plus grosse citrouille tenue à Half Moon Bay, en Californie, 1000 kilos.
1000 kilos.
Wow! C'est de la citrouille.
C'est quand même gros.
Donc, quand on parle...
Ça ne tiendrait pas sur mon porche. Alors,
mais ça peut bien faire le carrosse de Cendrillon.
Pourquoi j'en parle? C'est parce que quand tu décides de mettre tout ça dans un espace très, très restreint, de mettre toutes les conditions, tu arrives à quelque chose qui est complètement hors norme. Là,
oui.
Oh, tu parles même plus de compétition, tu parles même plus de moyenne, parce que là t'es dans une moyenne, t'as un géant puis un lilliputien à côté. Alors, c'est plus la même chose du tout. Mais sans aller dans ces extrêmes-là, je dois dire que nos gens qui sont venus des États-Unis ont optimisé ou maximisé les conditions pour produire ça. Et il ne faut pas non plus développer un complexe parce qu'on n'a pas ça.
Non, mais aussi, ils ont un climat plus favorable, tout dépendant des parties des États-Unis. Là.
Tout à fait.
À certaines cultures, on va se
rendre. Exactement.
Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Michel Saint-Pierre.
C'est un plaisir. Tu as parlé de citrouille, oui.
Ah oui, c'est ça.
C'est bientôt l'Halloween.
Pensiez pas qu'on parlait de citrouille aujourd'hui.
Merci, Yannick Patelli. Alors voilà, c'était votre émission d'aujourd'hui de La Quotidienne. On se dit à bientôt.